Bonjour et bienvenue au podcast Parole Inclusive. Je suis votre animatrice Vanessa Neal. Nous enregistrons aujourd'hui dans le hangar de l'École des métiers de l'aérospatial de Montréal lors de l'événement Horizon organisé par CAMAC, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatial du Québec. Tout d'abord, Horizon est un événement qui souhaite réunir les membres des communautés sous-représentées, les centres de formation, les représentants d'entreprises ainsi que les personnes intéressées à intégrer le milieu de l'aérospatial et l'aéronautique. À cette occasion, la journée est dédiée au partage, à la découverte, l'expérimentation et la projection au travers de plusieurs activations immersives, telles des ateliers, conférences, animations, visites et bien plus encore. Le tout dans le but d'aller plus loin ensemble, propulser de nouvelles approches, co-construire le futur et regarder vers l'avant. Et c'est donc avec cette belle introduction que je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs, à ce quatrième enregistrement de Paroles Inclusives. Ce podcast est dédié à faire valoir l'inclusion, la diversité et l'équité, ainsi que l'innovation dans les métiers de l'aérospatial et démontrer la force de la diversité au sein des entreprises du domaine. Chaque enregistrement souhaite explorer une thématique de l'EDI, c'est-à-dire l'équité, la diversité et l'inclusion dans le domaine de l'aérospatial. Afin de partir notre balle, notre quatrième sujet de discussion aujourd'hui s'agit des défis actuels et les tendances futures de l'EDI. Je suis accompagnée de deux intervenants ici du milieu. Les voici. Mario Sabourin, directeur général du CAMAC, bonjour. Et Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et président du Conseil Emploi Métropole. Bonjour. Alors, bienvenue, messieurs. Avant de commencer à décortiquer notre sujet, j'aimerais ça vous donner la parole à tous les deux pour que vous puissiez parler un petit peu de vous-même et de votre parcours professionnel. Mario?
Oh, le parcours professionnel. Écoutez, au départ, je suis mécanicien de machinerie fixe dans le secteur minier. Dans le secteur minier, bon, il y a des syndicats, ce qui fait en sorte que j'ai occupé des fonctions syndicales pendant plusieurs années, jusqu'à formateur et conseiller syndical à travers le Québec. Par la suite, j'ai occupé la fonction de directeur général du comité sectoriel de main-d'œuvre en transport, DG. Ensuite, j'ai parti une entreprise où on faisait venir de la main-d'œuvre immigrante au Québec pendant quelques années, et par la suite, je suis revenu dans le milieu du comité sectoriel à titre de directeur général du comité sectoriel, le CAMAC.
Mm-hmm. Merci Mario. Jean?
Moi, je suis le président de la Commission des partenaires du marché du travail, nommé par le gouvernement du Québec. C'est un organisme paragouvernemental avec des partenaires patronaux, syndicaux, les trois ordres d'enseignement et le monde communautaire. Également, le Conseil emploi métropole pour la région métropolitaine de recensement. Mon parcours, évidemment, j'étais secrétaire général de la CSN jusqu'en 2021. Et je siégeais à la Commission des partenaires depuis 8 ans comme représentant de mon organisation. Auparavant, j'avais été président de la Fédération du commerce, de la CSN. Je proviens du secteur de l'hôtellerie. Je suis un travailleur de l'hôtellerie, l'hôtel des gouverneurs de la Place du Puy. Alors, j'ai commencé à travailler là à 16 ans. Et j'ai commencé à m'occuper d'activités syndicales et je suis devenu dirigeant de la CSN et dirigeant de comité sectoriel dans le tourisme et évidemment de nommé par intérim en juillet 22 par le gouvernement du Québec et de façon permanente pour 3 ans en mars 23 pour un mandat de 3 ans comme président de la commission et que j'exerce jusqu'en mars 26.
Super, mais merci pour ces introductions et bienvenue. Alors, nous allons entamer ce sujet et démystifier la réalité sur le terrain et comment anticiper l'avenir pour ce qu'il y a à l'EDI. Donc, je vous lance une première question. Messieurs, d'après vous, comment les employés perçoivent-ils l'impact de l'EDI au sein de leur entreprise? Grosse question.
Je dirais qu'ils le perçoivent avec un enjeu qui s'appelle l'échéance de la potence. Si on ne prend pas d'initiative pour intégrer des clientèles dites éloignées du marché du travail, jeunes, 45 ans et plus, femmes, autochtones, Premières Nations, Inuits, handicapées, personnes judiciarisées, les entreprises québécoises vont accentuer leur déficit en main-d'œuvre. Donc, il y a des potentiels de développement, d'accueil, d'intégration et de fidélisation, mais il faut que les gens aient la volonté de le faire dans leur milieu de travail, autant les gestionnaires que les employés, d'accueillir ces gens-là et intégrer dans les milieux de travail. On a un potentiel formidable au Québec. qui nécessite beaucoup d'efforts, bien sûr, mais à la commission, on travaille très fort. On a 8 comités consultatifs qui représentent toutes ces clientèles-là et que notre travail, c'est de faire en sorte de faciliter l'intégration au marché du travail en termes de formation, en termes de développement des compétences, mais également d'intégration dans les milieux et qu'ils y demeurent, donc acquérir des compétences, etc. Donc, c'est un défi de taille. Le Québec ne peut plus se payer le luxe de négliger des dizaines de milliers de personnes qui pourraient potentiellement contribuer au développement économique. Alors, on est là, la Commission, on travaille très fort à développer des compétences, à développer une facilité pour ces gens-là de s'intégrer et de se faire connaître, surtout se faire connaître et pouvoir baisser les barrières à l'intégration, au développement des compétences, à l'équité dans les milieux de travail. Donc, l'échange de la potence, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui fait que les Québécoises et Québécois, s'ils ne prennent pas le taureau par les cornes, d'ici quelques années, on va payer le prix chèrement d'avoir négligé un potentiel extraordinaire de personnes, de capital humain, comme moi j'ai moins cette expression-là, mais de personnes qui peuvent travailler, qui pourraient travailler moyennant des conditions d'accompagnement dans les milieux de travail.
Puis quand on parle d'accompagnement, bien évidemment qu'il faut donner la formation aux salariés déjà en place. OK? Comment eux peuvent bien accompagner aussi ou accueillir ces gens-là à venir travailler? Souvent, ce qu'on ressent, c'est quand ces gens-là arrivent dans le milieu du travail, bien, les gens qui sont déjà dans le milieu du travail, bien, ils n'ont pas été préparés à ça. Okay? Donc, il y a une préparation à faire, que tout le monde soit capable de bien s'intégrer à ça, bien travailler à ça. Puis, comme dit Jean, il y a un bassin de main-d'œuvre qui est disponible au Québec, dans ces communautés-là, puis il faut en bénéficier, là. C'est des gens qui sont compétents, puis...
Oui, c'est sûr. Ben, vous avez parlé de pénurie de main-d'œuvre, puis aussi, d'après mes lectures, c'est qu'il y a une grande demande, enfin, dans le milieu de l'aérospatial, peut-être.
41 500 dans les prochaines années qu'on a de besoin.
C'est
autant qu'il y en a
chiffre.
Qui vont partir à la retraite et des nouveaux postes qui vont être comblés. Selon nos recensements au CABAC, au total, on parle dans les 3 secteurs confondus, là, OK? Secteur manufacturier, aéroport et le transport. OK? Beaucoup de pilotes aussi. Si on veut aller dans le sud, là, ça nous prend des pilotes.
C'est clair. Puis aussi, avant de passer à la prochaine question, mais il y a aussi la part de ce que l'EDI peut amener à une entreprise.
Oui, parce que c'est des bonnes pratiques de relations de travail, des bonnes pratiques de collaboration entre les ressources humaines. Ça donne un signal fort aux gestionnaires, mais aussi à la main-d'œuvre sur le plancher dans l'usine, qu'ici, on a de bonnes et saines pratiques de gestion qui fait qu'on accueille, on intègre et on fait en sorte que les gens soient dans un climat de travail qui est sain, exempt de toute forme de discrimination. Alors, c'est un signal très fort quand une entreprise fait le virage. C'est très demandant aux gestionnaires en ressources humaines, en plus de tout le reste, là, trouver de la main-d'œuvre, accompagner de la main-d'œuvre, et développer des nouvelles compétences. D'avoir ça, c'est un signal fort de dire ici, dans un milieu de travail, vous serez bien intégré, bien accueilli. C'est pas anodin, ça, pour une entreprise. Ça, en termes d'image, pour attirer et fidéliser sa main-d'œuvre.
Une belle ouverture. Ça prend une belle ouverture.
Ça prend une belle ouverture, tout à fait, tout à fait.
Puis ça, est-ce qu'on parle aussi spécifiquement au milieu de l'aérospatial ou de l'aéronautique?
C'est-à-dire partout, ces accommodations-là? Le Québec est en crise. Là, on vit 3 transitions, transition verte, transition technologique et démographique. La transition démographique, on en a jusqu'en 2040, à vivre une pyramide inversée en termes de capacité d'avoir de la main-d'œuvre, donc moins de jeunes. Donc, il faut innover. Et le défi qu'on a à relever, c'est d'être capable de trouver des chemins qui n'ont jamais été sarclés, jamais été débroussaillés, et d'inventer des nouvelles façons de faire qui vont appeler à l'audace. Et des fois, je le dis souvent, on va se péter la gueule en sang sur le mur, mais il faut recommencer. Si on ne tente rien, on ne réussira rien. Alors, on en a pour au moins une 20aine d'années à conjuguer ces 3 transitions-là, ces 3 crises transitionnelles, et d'y faire face. Et elles sont là en même temps. La pandémie a juste accentué tout cela, mais elles auraient été là de façon plus lisse. Mais véritablement, on est au cœur d'une tourmente. Et beaucoup d'entreprises québécoises en arrachent à cause de ça, parce qu'elles ne sont pas capables de trouver de la main-d'œuvre. Il y aurait des commandes, il y aurait des contrats, mais ils n'ont pas de main-d'œuvre pour le faire. Donc, on a comme quelques verrous importants qu'il faut réussir à lever pour être capable de pouvoir répondre aux besoins et du marché du travail, mais aussi de l'économie québécoise.
Au niveau économie, c'est important, là, parce que si on ne réussit pas à remplir nos entreprises ici, c'est que les entreprises vont réfléchir à dire, est-ce qu'on prend notre production qu'on devrait faire au Québec et on s'en va à l'extérieur pour faire la production. Donc, faut prendre le virage. La beauté d'une journée comme aujourd'hui, OK? Avec tous les bons conférenciers qu'on a eus, les panels, puis tout ça, puis des sujets, ça amène un débat, une discussion, disons, une prise de conscience. Puis depuis tantôt que je me promène, puis je discute avec les gens sur le terrain, puis il me dit, Mario, ouais, effectivement, là, faut qu'on prenne un virage, faut qu'on réfléchisse à ça, comment qu'on va le faire, plaquette. Fait que je pense qu'avec des journées comme on fait aujourd'hui, puis le kit, là, ça va aider à l'ensemble des secteurs. Là. Un beau lancement.
Alors, on prend déjà le pouls de la journée, c'est le fun. Ouais. Je pense à une autre question ici. Quelles tendances futures peuvent être anticipées en matière d'EDI? Donc, notamment en ce qui concerne la réglementation et l'innovation. Est-ce que vous me suivez dans cette question-là?
Ben, je vais essayer quelque chose. C'est clair que toutes nos politiques publiques doivent être modifiées parce qu'elles doivent s'adapter. Alors, une stratégie nationale pour les personnes handicapées, une stratégie nationale pour les femmes, une stratégie nationale pour les 45 ans, les Premières Nations. Il faut avoir un regard différent de ce qu'on a fait pendant les 40 dernières années où nos politiques publiques étaient basées sur la recherche de travail. On avait de la main-d'œuvre, des taux de chômage colossaux. Ce n'est plus le cas. Et maintenant, il faut que nos politiques publiques reflètent cette diversité-là, cette recherche de l'équité, cette recherche de la diversité, de l'intégration. Et ça pose un défi taille parce que rien n'a été formaté de la façon suivante. Et donc, ça veut dire qu'on doit réinventer, tester, tenter de nouvelles approches. Pas toujours avec succès, mais on n'a pas le choix de le faire. Alors, c'est à peu près la réponse que je tenterais de dire. Il faut qu'on ait un nouveau regard, une nouvelle lunette sur les enjeux qui concernent les clientèles, moi, ce que j'appelle dites éloignées du marché du travail, pour favoriser cette intégration-là dans les milieux.
Puis, il faut la regarder. C'est pas juste quand on parle d'entreprise, on parle de l'employeur, c'est sûr, mais il y a tout le côté syndical aussi, convention collective qu'il faut qu'il soit adapté. Il faut avoir une façon de penser différemment. Il faut adapter les choses... les conventions collectives, les horaires de travail, puis ainsi de suite, adaptées en fonction de ça. Non?
Absolument. J'allais ici faire référence à Suzanne M. Benoît, qui est en fait la présidente directrice générale d'Aéro Montréal.
Ah, c'est changé. Suzanne a pris sa retraite. Maintenant, la présidente directrice générale, c'est Mélanie Lucier.
Bon, ben merci. J'ai pris ça sur l'Internet, mais clairement, mes données ne sont pas à jour. J'ai fait ça hier, mais... Alors, je vais quand même lire sa réplique ici. Donc, l'aérospatiale a longtemps été une industrie dominée par les hommes et cette réalité a maintenant un impact sérieux sur la croissance, l'évolution et la durabilité future du secteur au Canada. L'homogénéité fait courir à l'aérospatiale un risque sérieux de perdre les avantages d'une industrie fondée sur la DEI que la DEI peut offrir. Donc, moi, je relancerai là-dessus...
Ben, peut-être juste un complément, si je peux me permettre. C'est le texte, il n'est pas faux, okay? Sauf que ça s'applique à l'ensemble des secteurs au Québec, manufacturier. C'est pas seulement dans l'aérospatial, là.
Okay.
C'est dans tous les secteurs du Québec où ça.
Oh, c'est tout à fait vrai. Les gars étaient dans les shops. Les filles étaient dans les bureaux.
Ouais.
Et ben, ce paradigme-là ne peut plus se faire. Il faut qu'il y ait des filles sur le plancher et des gars dans le bureau. Et il y a des enjeux d'accès aux emplois, il y a des enjeux de formation, des enjeux de décrochage scolaire, qui fait que souvent les hommes se retrouvaient dans les planchers d'usine parce qu'ils finissaient pas leur secondaire 5. Alors, on a un déficit important de compétences et de développement de compétences au Québec. 50% des Québécois ont des enjeux de littératie numérique et de numératie. Imaginez-vous, on a trois transitions à prendre et la moitié de la population travaillante ne peut pas relever ces défis-là. Oh là! Alors, c'est colossal. Et rajouter à ça la volonté de diversifier les milieux de travail, c'est qu'on les met moins à risque. Quand on a des secteurs homogènes, ils sont beaucoup plus à risque de pénurie de main-d'œuvre parce que les bassins peuvent s'étioler, on peut perdre des capacités d'intégrer. Alors, quand on noue les milieux de travail, d'abord, on va chercher de la richesse parce qu'évidemment, ils sont diversifiés et ça fait en sorte que les entreprises sont capables de tabler sur une pluralité de perspectives, de main-d'œuvre, de capacités de production et de développement que des secteurs homogènes ont tendance à fragiliser, disons.
Mais disons que là, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle d'un grand besoin aussi de postes qui s'ouvrent, de besoin d'être compétitif avec le milieu international. Puis en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ce changement-là, cet intérêt face à l'EDI, est-ce que ça vient d'une intention intègre ou juste parce que c'est un besoin économique et compétitif?
Intègre.
Comprenez ce que je veux dire?
Oui, absolument. Une société évolue. Hein, évidemment, ce qu'on faisait dans les milieux de travail il y a 40 ans serait inacceptable aujourd'hui. Crier après les gens, les attitudes, tout ça, on n'est plus là. On a évolué comme société, on progresse. Donc, nos valeurs changent aussi comme société pluraliste. Donc, effectivement, les milieux de travail doivent s'adapter. Ça reflète aussi la société. Les gestionnaires ou les travailleurs, c'est du monde qui sont dans la société. Ils votent, ils se prononcent, ils sont pour, sont contre des enjeux. Donc, ça se transporte dans les milieux de travail. Donc, ils évoluent, les milieux de travail. Donc, il n'y a pas juste des intérêts purement mercantiles dans tout ça. Il y a aussi une volonté de dire, ça doit refléter ce qu'on vit chez nous, à la maison, ce qu'on vit à l'école, ce qu'on vit dans la société, les valeurs qu'on veut transporter dans l'entreprise aussi. Là.
Mm-hmm. Mario, tu veux-tu rebondir?
Non, c'est bien. Moi, je suis impliqué depuis 1999 avec les communautés.
Okay? Les communautés...
L'ensemble des communautés, l'ensemble des nationalités. T'sais, à un moment donné, j'étais à tête d'un mouvement qu'on s'occupait de l'ensemble de l'industrie du taxi. Fait que l'industrie du taxi, c'était toutes des gens qui les Québécois ne voulaient pas faire ce travail-là. C'était tous des gens qui venaient des communautés, et ainsi de suite. J'ai appris à travailler avec eux, puis la quête. Fait que c'est des gens qui ont une bonne volonté, mais c'est... Il y a un virage qui est en train de se faire depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, il est peut-être plus criant, là. Okay? C'est-à-dire que, oui, il faut aller de l'avant là-dedans. On n'a pas le choix d'aller de l'avant là-dedans. Il y a de la main-d'œuvre disponible. Il faut adapter nos postes de travail en fonction de cette main-d'œuvre-là. Okay? Juste les... Tantôt, on disait que le milieu, c'est juste des hommes. Mm-hmm. OK? Fait qu'il y a des... Si on veut que les femmes viennent sur le marché du travail, bien, il va falloir adapter certains postes de travail en fonction de ça aussi. OK? Puis c'est bon pour tout le monde, là, autant pour les hommes, là. OK? C'est comme à un moment donné, dans les années 80, quand on a eu tous les changements avec la robotique puis tout ça, il y a eu un virage qui s'est fait. OK? Il y a eu une adaptation qu'il a fallu qu'il soit faite, puis tout ça. Mais aujourd'hui... Je pense qu'au Québec, le secteur manufacturier est en train de prendre un grand virage, une grande remise en question, et on n'a pas le choix d'aller là. Il y a une ouverture.
Et mettons, concrètement, dans les points de vue que vous avez par rapport au poste que vous occupez, dans les épisodes précédemment, on a eu des personnes qui venaient du milieu LGBTQ+, directeurs, une directrice générale d'une entreprise qui intègre les personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. On parlait de solutions concrètes. Qu'est-ce que vous avez témoigné à date dans le milieu?
Concrète, c'est-à-dire adapter les machines?
On peut parler autant ça au niveau physique, mais aussi dans le recrutement ou dans les formations.
Les préjugés, hein? Moi, je regarde, on a un comité consultatif pour les personnes judiciarisées adultes.
Mm-hmm.
Peu d'entreprises québécoises ont le goût d'embaucher quelqu'un qui provient d'une communauté judiciarisée adulte. On ne le dit pas souvent, mais il y a 900 000 Québécoises et Québécois qui ont des dossiers criminels. 900 000, oui, 80-quelques % c'est des gars, c'est la boisson, hein, évidemment. Et la plupart oublient de demander leur pardon royal. Des fois, ça leur pop dans la vie, ça, pour une nomination ou un poste. Alors, avoir l'ouverture d'accueillir quelqu'un qui est différent, parce qu'évidemment, on dit souvent, on embauche ceux qui nous reflètent ce qu'on est nous-mêmes. Alors, quand on a un processus de sélection, l'adapter à la clientèle qu'on va accueillir, si c'est des personnes handicapées, judiciarisées, Premières Nations inuites, des questions de langue aussi, questions de culture, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette ouverture-là, c'est-à-dire ne pas juste dire c'est automatique, ça se fait de même, ça s'est toujours fait de même, ça va toujours se faire de même. Donc, dire, il faut mettre ça de côté puis dire comment on pogne ça. Et puis, je donne cet exemple-là des judiciarisés adultes parce que je travaille avec eux et je participe à un événement avant Noël. C'est lourd, le parcours d'une personne qui sort de prison pour avoir le permis de conduire, pour avoir un bail, pour emprunter de l'argent, pour avoir une assurance automobile, avoir une job. Ouf! Ils abandonnent souvent parce que c'est trop lourd. Alors, la responsabilité, c'est si on veut les recruter, les accompagner. Je donne souvent l'exemple cocasse d'une personne qui était troisième génération sur l'aide sociale à Shawinigan, pour pas nommer la région, et réussit à intégrer dans un milieu de travail. Donc, on lui donne un poste dans l'entreposage pour être découpeur de carton, puis préparation des boîtes de carton. Une première journée extraordinaire. C'est la première fois en trois générations que une personne de cette famille-là travaille. Le lendemain matin, elle se présente pas au travail. Et c'est vrai ce que je vous dis, c'est le conseil régional qui me l'a rapporté. Elle se présente pas au travail, la personne. Alors, directeur des ressources humaines découragé. Les autres employés disaient, elle faisait une bonne job. Elle était à l'hôpital parce qu'elle avait mal partout. Personne ne s'était posé la question en disant « elle a travaillé fort hier, puis elle a des douleurs musculaires que tout le monde aurait parce qu'on a fait un effort considérable. » Il n'y avait pas pensé à dire « oh, ben là, il ne faut pas y dire de tout se pitcher la première journée de la semaine. On est lundi, il faut qu'elle tienne jusqu'à vendredi. » pour tout le monde travailler, c'est lundi au vendredi, puis on sait qu'on se ménage un peu le lundi pour que le vendredi, ça, on atterrisse. Mais personne n'avait pensé à ça. Et pour essayer de pour avoir un week-end. Et la personne, ils ont dit, OK, là, on a compris. Alors, ils sont allés chercher à l'hôpital. Elle était pas malade. Tu avais juste des courbatures. Et là, ils ont dit, OK, on va repogner ça. Et là, c'est un exemple cocasse. Mais en même temps, ça vous illustre le défi d'accompagnement qui est quotidien. Et ça, donc, il faut avoir de la résilience pour être capable de le faire. Puis quand un directeur ou une directrice des opérations doit partir la ligne le lundi matin, parce que quatre gars ou quatre filles ont la COVID, puis il faut livrer Moncton vendredi, vous comprendrez que la gestion de l'intégration ce matin-là, ça ne sera pas en priorité. Là. On part la machine. Donc, on a un défi d'être capable d'accompagner les PME québécois. Puis un chiffre important, 85 % des Québécois et des Québécois travaillent pour des PME de moins de 10 employés. Ouch! Il n'y a pas de directeur des ressources humaines dans ces entreprises-là à moins de 10. Alors, comment vous pouvez faire de l'intégration, de l'accompagnement, tout ça? Donc, c'est un défi de taille. On a des plafonds de verre malgré tout. Et c'est ça qu'il faut réussir à travailler, partager, mutualiser ce travail-là pour permettre aux PME d'embaucher puis d'avoir de la main-d'œuvre aussi, là.
Puis vous sentez que dans vos entreprises ou dans les postes que vous occupez, vous êtes capable d'aider autant les grandes entreprises que les PME? Parce que c'est quand même des besoins différents.
C'est plus facile, les grandes. Ils ont des moyens. Vous avez Bombardier qui avait 40 personnes à plein temps sur le développement des compétences. Au secours, c'est pas la PME québécoise qui a 9 employés. Elle a pas ça. Donc, c'est la grande entreprise qui est capable de pouvoir poser des gestes puis d'avoir un peu de continuité que la PME n'a pas du tout. Alors,
C'est souvent les dirigeants des petites entreprises. Moi, j'appelle ça des hommes ou des femmes orchestres.
Ouais.
Ils font tout. Ils font tout. OK? Ce qui est pas évident, là. Et ils n'ont même pas les moyens de prendre le temps de dire, y a-tu des ressources quelque part qui pourraient me donner un coup de main?
Oui.
Fait que ça fait partie de notre rôle, là, okay, d'en faire la promotion. Il y a des outils qui existent, il y a des moyens qui existent. Fait qu'il faut sensibiliser, il faut transmettre l'information puis dire que c'est là pour aider les compagnies.
Ouais. Puis effectivement, comme vous dites, je pense que c'était un intervenant plus tôt qui disait que 90 % je pense, des entreprises au Québec sont des PME. Ça nous donne une idée de la taille. Puis ça veut dire que, donc, après, en proportionnalité au niveau des employés, s'il y en a autant dans les grandes entreprises que les PME, mais ça veut dire que les personnes travaillent dans ces milieux-là, qui sont quand même des milieux difficiles, puis où on intégrait ce changement-là au niveau de l'EDI, quand même peut-être un peu plus lent.
C'est ça. Tu sais, tantôt, quand on disait il faut sensibiliser l'équipe qui va accueillir ces gens-là dans une entreprise, mais quand on parle d'une entreprise de 10 personnes, qui va s'occuper des préparer à accueillir, OK? Tandis que les entreprises comme Bombardier, comme Jean disait tantôt, bien, c'est plus simple, plus facile. Bien, peut-être pas plus facile, mais ils ont les moyens de transmettre l'information puis faire les formations qu'ils vont.
Direz-vous, en fait, que même les défis sont différents, tu sais, comme on dit. On prend un exemple comme Bombardier, qui est une compagnie à grande échelle. OK, bien, c'est presque protocolaire comment on va approcher l'EDI versus une PME où, bien, peut-être que l'approche est plus personnelle parce que c'est plus petit, mais le défi de l'EDI va être ailleurs. Qu'est-ce que vous pourriez en dire à ce niveau-là?
Bien, c'est clair que les grandes entreprises internationales ont à faire preuve d'ouverture parce que ça fait partie aussi de leur bilan social. Elles sont questionnées sur leur investissement, questionnées sur toute l'ouverture à l'écologie. Donc, elles ont des bilans à déposer et elles doivent le faire aussi sur l'EDI. Et donc, elles sont capables de prendre des moyens parce qu'elles ont les ressources et la continuité pour le faire. Donc, une espèce de permanence et des postes variés qui permet d'intégrer sur des postes très pointus ce que la PME a moins. Donc, elle n'a pas le même bilan à produire. Donc, c'est beaucoup plus sur la ligne de front. Donc, le temps d'intégration est beaucoup plus court dans une PME parce que vous êtes tous à la ligne de front. Il y a manque de staff. On est 10. Il y en manque un qui n'est pas rentré le samedi soir. Bien, il faut que quelqu'un... Puis il va être seul à travailler. Moi, de mon milieu de travail dans l'hôtellerie, on en avait des gens qui avaient des difficultés d'intégration et ils étaient laissés tout seuls la nuit ou le soir parce qu'il n'y a personne pour le faire. Alors, c'est pas facilitant, ça, bien sûr, pour les gens. Alors, le défi pour les PME, c'est d'être capable de pouvoir le faire et pas de décourager puis dire « on n'est pas capable ». Donc, on se ferme à cette ouverture-là, mais les obstacles sont nombreux, là, et bien, très nombreux.
Ah oui, une question! Ben oui, allez-y!
Comment allez-vous travailler à partir de maintenant avec l'intelligence artificielle dans tout ce brouhaha dont on vient de parler? Je vous donne un exemple. J'ai un bon contact dans la mécanique automobile. Et il me disait la semaine dernière, la majorité des mécaniciens vont devoir devenir des techniciens. Parce que les nouvelles automobiles sont électriques, où ils sont beaucoup plus évolués et ils se branchent sur un ordinateur. Donc, il y a tout un défi là en plus là, de la technologie. Puis l'intelligence artificielle, il y a, de mémoire, là, j'ai regardé ça là, dernièrement, je pense qu'il y a 40 ou 45% des emplois qui vont être obligés de se transformer. Ça ajoute une couche à ce dont on parle qui est déjà pas facile. Comment vous entrevoyez ça?
Je vais juste répéter la question de monsieur pour qu'on l'entende bien au micro. Je vais paraphraser, mais on parle ici donc d'évolution au niveau technologique. Donc, comme vous avez dit, les mécaniciens vont devoir devenir des techniciens. Ça, c'est, mettons, au niveau, par exemple, dans le milieu automobile. Et donc, comment est-ce qu'on peut pallier à ce changement?
L'intelligence artificielle. C'est juste la formation.
Je pense que tout le monde, à l'intérieur de l'aérospatiale, on en parle actuellement, c'est qu'on sait que les métiers traditionnels qu'on connaît aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent, c'est que les métiers sont portés à prendre un virage qui vont être complètement différents. OK? Exemple, on a des entreprises qui ont beaucoup de robotique. Anciennement, tu avais des mécaniciens, mais aujourd'hui, les mécaniciens sont plus adaptés pour le robot. OK? Et on sait que dans le futur, le mécanicien va devenir quelqu'un qui va devoir comprendre le robot au niveau de la problématique. Puis tout ça. OK, on sait qu'il va y avoir... Mais ça fait partie aussi de notre rôle de s'assurer que la formation qui se donne dans les centres de formation professionnelle est en adéquation avec les besoins de l'industrie. Okay? Donc, on fait l'exercice sur une base régulière de s'assurer que tout suit. C'est pas toujours évident, là, mais c'est sûr que l'intelligence artificielle, bien, c'est aussi nouveau. OK? Puis, autant que ça peut dire, hey, c'est le fun, ça va être plaisant. Puis, sur l'autre côté, tu dis, hey, c'est quoi ça? Ça fait peur à tout le monde. Regarde. Ça aussi, il va y avoir une adaptation à faire. Il y a un travail à faire.
Oui, donc c'est ça. Donc, on parle évidemment autant au niveau de l'EDI, mais aussi dans l'aspect technologique. Ouais. Donc, ça reste que c'est un milieu qui évolue sur plusieurs niveaux, à plusieurs titres.
Et rappelons que l'intelligence artificielle est discriminatoire, dans le sens que ces bases de données sont faites sur des clientèles qui sont déjà identifiées. Alors, les clientèles qui n'ont jamais été identifiées, nommées, tout ça, l'intelligence artificielle ne va pas les chercher. Donc, on a un défi de taille. Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, le disait, il faut le biais genré, le biais que l'intelligence artificielle développe, c'est sur les bases de données qu'elle travaille. Donc, si on n'a jamais convenu que toute une série de clientèles n'était pas diagnostiquées ou inventoriées, ben c'est clair qu'elles n'existent pas. Alors donc, on risque d'avoir aussi un biais genré sur différents enjeux de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un défi de taille qu'on a relevé aussi.
D'ailleurs, on discutait plutôt aussi du fait que on parle de différentes communautés dans l'EDI. On peut parler autant de personnes en situation de handicap, des personnes issues de la communauté immigrante ou réfugiée, ou des personnes de la communauté LGBTQ+. Et donc, ce développement-là se fait à différentes échelles, dépendamment de la communauté. Donc, on va voir, mettons, les femmes qui se retrouvent peut-être en position de directrice, de présidente. Donc, tu sais, ça veut dire que ça avance bien à ce niveau-là, mais que, comme on disait tantôt, ben les personnes en situation de handicap sont encore en train de trouver, de passer la porte d'entrée pour se trouver des emplois au sein des entreprises. Donc là, c'est sûr que quand on parle en plus d'intelligence artificielle qui ne va pas nécessairement prendre en compte ça, eh bien là, l'écart devient de plus en plus grand, peut-être.
Oui, puis on n'est pas tous sur la même pole position. Nous, dans les 8 comités consultatifs qui représentent toutes les clientèles, là, 10 éloignées du marché du travail, ne sont pas tous égales dans leurs difficultés. Là. Il y en a qui ont des chances un peu plus grandes que d'autres. Alors, évidemment, le défi, c'est être capable de donner une chance à tout le monde de pouvoir partir sur la pole position en même temps. Là. Et ça, ce n'est pas simple, là, parce que quand vous avez des enjeux pour les Premières Nations Inuites, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'à Montréal, pour des populations jeunes ou des populations anglophones, des Québécois d'expression anglophone, on est ailleurs. Donc, il y a des défis selon les régions, selon les secteurs, selon les âges, alors qui sont nombreux, mais ne sont pas tous égaux là, sur la même ligne. Il y en a qui peuvent s'en sortir un peu plus vite, plus rapidement que d'autres, effectivement. Alors ça, il faut en tenir compte dans les analyses transversales.
Exact. Puis les besoins en région, les besoins à Montréal, des grands centres, complètement différents. Mm-hmm,
mm-hmm. J'enchaîne ici sur une autre question. Quels sont les avantages les plus significatifs que vous avez observés suite à l'adoption de l'EDI au sein de votre entreprise ou de votre secteur? S'il n'y en a pas eu, quels désavantages observez-vous? Donc, ça, c'est pour les gains à date.
Moi, je vous dirais, dans les dernières années, ce que j'ai senti, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais c'est que les gens n'étaient pas préparés à ça. Les gens à l'intérieur des entreprises, même... Tu sais, à un moment donné, les entreprises disaient « Hey, j'ai besoin de main-d'œuvre. Bon, on va trouver de la main-d'œuvre. » Bon, OK. Les postes de travail n'étaient pas adaptés pour certaines catégories de gens. OK. Donc, il y a eu de quoi faire. Suite à ça, il y a eu tout le volet immigration. OK? On a dit « Hey, l'immigration va faire venir du monde, ça va venir régler notre problème. » Sauf qu'il y a toute une préparation à l'immigration. Okay. Comment est-ce que tu vas les accueillir à l'intérieur de l'entreprise, mais comment aussi à l'extérieur de l'entreprise, tout le volet social, les accompagner? Tu sais, une personne immigrante qui débarque à l'aéroport, il y a une valise de 23 kilos comme nous autres quand on va en voyage une semaine, là. Sauf que lui, c'est toute sa vie, là. Okay. Il faut... Comment t'accompagnes tous ces gens-là, plus les postes de travail? Juste les écriteaux à l'intérieur des entreprises. OK? Tu fais venir des gens qui viennent de l'extérieur, qui parlent espagnol, un petit peu anglais, puis bon, puis tout est en français dans l'entreprise. Il y a des ajustements à faire, il y a beaucoup de choses à faire.
Ou des personnes non-voyantes.
Personnes non-voyantes, ouais. Personnes handicapées, mm-hmm. OK? Tu sais, je parlais avec une entreprise tantôt, il dit, Mario, il dit, c'est vrai, il dit, les personnes handicapées, mais il dit, chez nous, j'ai trois entreprises, il n'y a aucune qui a un élévateur.
Aucune
qui a un élévateur. Puis c'est deux étages, deux entreprises. Tu sais, il dit, juste tantôt, là, il dit, j'écoutais, puis...
C'est basic.
OK? Et c'est ça qui est une adaptation.
Donc, donc, au niveau des avantages, mettons des histoires de succès auxquelles que vous avez entendues, comment est-ce que cela a bénéficié autant les personnes impliquées que les entreprises et l'industrie?
Bien, il y a une entreprise que je pense actuellement qui ont ouvert l'entreprise à l'ensemble des communautés et les personnes migrantes. Sauf que ça ne s'est pas fait toute seule, dans le sens qu'ils ont préparé les gens à l'intérieur. Okay? Ils ont sensibilisé qu'il manquait de main-d'œuvre actuellement. Ils ont sensibilisé que ça empêchait l'entreprise de pouvoir progresser, puis tout ça. Puis on dit, ils ont impliqué tout le monde dans le processus. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut le faire? OK? Fait que tout le monde a eu l'épaule à la roue là, dans l'exercice et tout le monde a ouvert les bras dans le sens de dire, bien oui, on va de l'avant. OK? Puis on a adapté. Puis c'est un succès là, aujourd'hui. Là.
Est-ce qu'on peut nommer l'entreprise?
je vais lui demander avant.
c'est bon.
Il a gagné des trophées puis tout ça dans le domaine. Okay. Ben, écoute, c'est un exemple à suivre, là, tellement qu'ils l'ont bien fait. Ils ont fait des comités de travail. Ils ont discuté comment est-ce qu'on... Exemple, si on veut rentrer des personnes à mobilité réduite, qu'est-ce qu'on a à faire à l'intérieur de l'entreprise? T'sais, ils ont préparé. Puis il y a déjà des expériences à l'intérieur des entreprises. Juste un exemple, les dossiers de CSST. Il y en a qui ont eu des accidents de travail, qui ont resté avec des handicaps, et les employeurs ont modifié les postes de travail en fonction de l'handicap en question. Donc, c'est réalisable, c'est faisable. OK? C'est juste qu'il faut mettre l'épaule à la roue et impliquer tout le monde dans le processus.
La difficulté actuelle, c'est que l'urgence de la pénurie de main-d'œuvre fait que les gens escamotent, n'ont pas le temps.
Ça, t'as raison.
On voit dans nos comités sectoriels de main-d'œuvre, on en a 29, et on avait des programmes d'apprentissage en milieu de travail. Donc, des compagnons qui vous accompagnent pour développer vos compétences puis obtenir une certification comme quoi vous êtes compétent dans le métier que vous faites. On n'est pas capable de trouver des compagnons parce que tout le monde travaille. Alors, il n'y a pas de monde. Donc, ça veut dire développer du temps pour accueillir quelqu'un qui est en situation d'handicap ou d'immigration. Il n'y a pas de monde dans les entreprises. Et il ne faut pas demander aux gestionnaires des ressources humaines. Ils ont encore moins le temps parce que tout court, tout va trop vite. Et il faut qu'ils sont en train, on gère la crise perpétuelle, ça essouffle. Moi, il y a des gens qui me racontent des choses, je visite des usines, j'en ai visité une de textile extraordinaire où 99% de la main-d'œuvre est d'origine première génération d'immigrants, immigrantes, et ils ont un processus de francisation costaud qui fait en sorte qu'il y a des gens en permanence dans l'usine pour franciser les gens. Et la deuxième génération, c'est des Québécoises et des Québécois qui sont dans les écoles. Ça, les parents poussent leurs enfants à aller à l'école. Et c'est extraordinaire, le milieu de travail. Mais ils ont eu du temps pour le faire. Là, maintenant, ils sont dans le jus, comme on dit. Ils sont en difficulté parce qu'ils ont de la misère à trouver de la main-d'œuvre pour les contrats qu'ils ont. Mais c'est un bel exemple où ils ont pris les moyens de franciser leur main-d'œuvre pour développer une meilleure intégration. Et ça marche parce que le succès, c'est que les gens fidélisent. Ils aiment le milieu de travail parce que il est reconnaissant, c'est un milieu de travail qui permet la qualification de la main-d'œuvre. Donc, les gens sont fidèles, ils sentent qu'il y a vraiment une volonté. Mais ça, vous devez vous investir sur la moyenne portée. Les succès n'est pas à court terme. Et on n'a pas beaucoup de temps en ce moment. Alors, c'est un peu un risque de voir, dans l'état d'urgence dans lequel tous les milieux de travail sont, d'être capable de dire, on se donne-tu un 5 ans sur ces questions-là? On n'est pas dans une situation de stabilité. La pandémie a beaucoup abîmé la résilience des entreprises et de la main-d'œuvre. La post-pandémie, avec les transitions, les difficultés qu'on a, fait en sorte que ça va être un des défis d'être capable d'avoir du temps pour intégrer des gens dans le milieu de travail. Et moi, je suis particulièrement sensible à ça. Il faut trouver des ressources pour accompagner les gens qui vont faire ça dans les milieux de travail. Sinon, les gens vont abandonner.
Bien, comme vous dites, dans les désavantages, évidemment, c'est cette rapidité, ce besoin immédiat. Dans ma recherche, je cherchais des exemples d'EDI dans l'aérospatial, puis évidemment, c'est quand même un besoin criant, donc on est encore un peu dans les c'est nouveau, on va dire, dans le secteur. Et puis, il y avait un guide qui était donné par le gouvernement du Canada sur comment appliquer un plan d'intégration de l'EDI. Mais c'est sûr que ça reste général. C'est pas spécifique au milieu de l'aérospatial. Donc, c'est sûr que ça peut apporter des défis, comme vous dites, des désavantages.
Il faut le lire. Il faut avoir du temps pour lire les guides.
En plus.
Tout le monde fait des guides.
En plus.
Et là, il faut avoir du temps. Tout le monde se donne une politique, une stratégie de... Mais là, vous dites, oh mon Dieu, est-ce que j'ai le temps de lire 88 pages? J'ai pas le temps, faut que... T'sais... Alors, le risque est là, il est important, là, la capacité de pouvoir réaliser cet EDI-là dans les milieux de travail.
Et pourtant, tu vois, Mario nous a donné un exemple positif, tu sais, des succès, puis dans les discussions précédentes, il y en a eu, on a parlé, tu sais, de l'EDI de façon assez positive, plutôt que de nommer les défis. Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte que pour certaines entreprises, autres que le temps qu'on a nommé, certaines peuvent établir des plans qui sont efficaces puis qui se réalisent et qui créent de la fidélisation, comme vous dites, et d'autres que, des fois, c'est un peu croche, c'est escamoté, comme vous avez dit?
Moi, je pense que ça dépend. Tu sais, l'entreprise que je vous parlais tantôt, les dirigeants de cette entreprise-là, c'est des personnes immigrantes qui ont vécu un processus difficile quand ils sont arrivés au Québec, ce qui fait en sorte qu'ils l'ont vécu. OK? Puis ils ont décidé d'ouvrir les portes puis de l'adapter en conséquence. OK? Puis il ne faut pas oublier une chose, là, on parle de l'EDI. Dans le fond, c'est tout nouveau, ça. Sans être nouveau, là, on se comprend, là, c'est là. OK? Je pense que tout le monde est en train de réaliser, « Hey, wow, il y a un beau bassin de main-d'œuvre, là. » OK? Fait que de plus en plus, il va y avoir des histoires à succès, là.
Oui.
OK? Que ça va se parler, des façons de faire.
Les bons trucs.
Tu sais, tantôt, je parlais des syndicats, les employeurs. C'est qu'à un moment donné, bon, on est paritaire, il va falloir regarder, développer des outils, tout le monde ensemble. Moi, je suis convaincu, je vois ça d'un œil positif, dans le sens que ça va fonctionner. Sauf qu'on commence. Dans le fond, on peut dire qu'on commence.
Oui, exact. Super. Je passe à une autre question. Quels sont les principaux obstacles à la mise en place de l'EDI au sein de votre secteur ou de votre entreprise?
Les obstacles.
Mm-hmm.
Ben,
spécifiquement à l'aérospatial, là, mettons.
Les obstacles, ben, je pense qu'on a parlé un peu. Un, c'est qu'il faut sensibiliser les gens, que la main-d'œuvre est disponible. Tu sais, c'est pas de la main-d'œuvre différente, là. C'est de la main-d'œuvre. OK.
Donc, ça veut dire qu'on pourrait appliquer les mêmes principes que d'autres secteurs?
Oui. Peut-être qu'il peut y avoir certains ajustements, certains postes de travail, bien sûr, mais moi, c'est comme ça que je le vois, là, dans le sens que toute personne qui est disponible à l'emploi, OK, qui peut suivre une formation, que tu peux adapter une formation et qui est capable de faire la job, bien, why not, faisons-le. Il faut faire l'effort. Mais l'effort est des deux côtés aussi, là. OK? La personne qui est en face de nous, il faut qu'elle soit prête aussi à faire les efforts pour intégrer le milieu du travail en fonction. Parce que c'est pas juste au milieu du travail, à tout changer leur façon de faire parce qu'on embauche une nouvelle personne. Moi, je pense que c'est tout le monde ensemble. Là, que c'est une intégration. Une intégration qui est des deux côtés, là.
OK.
C'est cet effet-là.
Ouais. Jean, as-tu de quoi rajouter là-dessus?
Pour que ça vienne de la volonté des propriétaires, des gestionnaires. Si un signal fort, les conditions de succès sont meilleures que s'il y a confusion ou il y a ambiguïté du propos. Tant qu'on n'a pas une volonté clairement exprimée des gestionnaires ou des opérateurs ou des gens qui disent « on fait ceci, on prend le leadership d'eux », ça ne réussira pas. Moi, je pense que c'est la clé du succès. Il faut qu'ils mobilisent les équipes.
Tantôt aussi, c'était l'humilité qui avait été mentionnée. Je trouvais que c'était un beau point que je souhaitais repartager parce que l'EDI se redéfinit en temps et lieu. Donc, c'est sûr que des erreurs, il va en avoir. Et il faut constamment ouvrir les portes plus grandes. Je vais vous poser une dernière question avec le temps qui nous reste. Quelles sont vos stratégies pour maximiser l'efficacité et la rentabilité de l'EDI dans votre entreprise à l'avenir? Donc là, on parle d'efficacité.
Bien, moi, je pense que la journée d'aujourd'hui que le CAMAC a décidé de mettre en place, j'en ai un moyen, là.
Absolument.
Effectivement, puis moi, de mon côté, dans la commission, c'est que nos 8 comités consultatifs qui travaillent sur ces enjeux-là pour ces clientèles dites éloignées travaillent ensemble en transversal, avoir une vision globale des enjeux qui concernent toutes ces clientèles-là et être capable de dégager pour avoir une capacité d'influencer les politiques publiques en éducation, en santé, en emploi, en formation professionnelle, on soit capable d'influencer. Il faut qu'on travaille bien arrimé ensemble. Ça, c'est le défi qu'on a à relever comme commission avec nos partenaires. Et le signal qu'on doit envoyer, c'est mieux travailler ensemble, mieux réseauter pour être capable d'avoir une vision globale de tous ces enjeux-là, de toutes ces dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs potentiels au Québec.
Donc, l'ouverture à tous les niveaux.
Oui, absolument.
Ouais. Moi, ce que je dis, je me plais à dire à bien du monde, des fois, en entreprise, je dis, écoutez, en face, c'est votre enfant. OK? Comment est-ce que vous aimeriez qu'il soit accueilli à l'intérieur d'une entreprise qui vit cette situation-là? Okay. Exemple, une personne handicapée. Ton enfant, c'est handicapé, il cherche un emploi. Comment tu aimerais qu'une entreprise agisse? Bien, agisse de cette façon-là. Okay.
Ça revient à l'humanité.
Exact.
Bien, merci beaucoup. Ça conclut notre temps aujourd'hui pour notre 4e épisode de Parole inclusive sur les défis actuels et les tendances futures de l'EDI. J'aimerais remercier nos intervenants aujourd'hui. Merci. Je vous salue votre partage et votre ouverture à cette discussion. J'espère que vous pourrez profiter du restant de la journée, le temps qui reste de cette belle journée horizon aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, à un prochain épisode. Il m'a fait un grand plaisir d'animer Parole inclusive. Je suis Vanessa Neal. Merci beaucoup et à bientôt.